Oui, il y a un excellent modèle de mise, de finir une vie pour les médecins, déjà, et de façon tout à fait légale, qui n'est donc pas celui de l'euthanasie dont on parle, puisque ça concerne des personnes, mais celui des fœtus, ou qui ne sont pas considérés comme des personnes sur un plan de la législation. Mais déjà, depuis donc de très très nombreuses années, il y a la possibilité pour les médecins d'interrompre la vie d'un fœtus jusqu'à 9 mois de grossesse. La loi en France permet de le faire durant la totalité de la grossesse. Et ça peut être un modèle, c'est simplement pour peut-être réfléchir à ce qui pourrait se passer après une législation votée concernant donc les personnes, comme c'est le cas, mais voir comment peut exister effectivement sur ce modèle, on se rend compte, peuvent exister des risques de dérapage. Alors autrefois, tous les obstétriciens ont été très longtemps des gens qui ont euthanasié. On a euthanasié autrefois beaucoup d'enfants, malheureusement, parce qu'il n'y avait pas les moyens de diagnostic actuels au niveau des malformations, et l'on avait à la naissance des enfants avec des malformations graves, donc que l'on euthanasiait, dont on abrégeait une vie qui était de toute façon extrêmement compromise, puisque les interventions n'étaient pas celles que l'on peut faire maintenant, donc on n'avait pas de possibilité de traitement. Certaines étaient des malformations neurologiques incompatibles pour beaucoup avec la vie, donc, mais c'était des enfants qui pouvaient vivre 24 heures, 36 heures, 48 heures. Et donc, il y a eu beaucoup de gestes d'euthanasie de fait. Ensuite, ces gestes ont beaucoup diminué, il faut être réaliste, par la crainte du médico-légal et par le fait que ce qui pouvait se passer il y a 30 ans ou 40 ans d'une façon relativement anonyme, entre guillemets, ce n'est plus possible actuellement. Et puis, le problème s'est posé de moins en moins parce que les techniques, en particulier d'imagerie avec les échographies, ont permis de diagnostiquer une très grande partie des malformations incompatibles avec la vie ou de malformations génétiques graves. Et donc, à ce moment-là, on s'est trouvé non plus confronté avec l'euthanasie active, l'enfant étant né, donc l'enfant né de toute façon devenu une personne, du moins à partir du moment où il était déclaré, donc on peut jouer l'équivalence là sur les mots, mais disons c'est une personne vivante, donc l'euthanasie a disparu pratiquement, sauf dans certains cas de réanimation un petit peu lourde, où on prend la décision d'arrêter une réanimation sur un petit fœtus dont on pense que les dégâts vont être irréversibles. Mais par contre, on est passé à une demande de la part. Et c'est ce qui fait, je crois, le modèle, un peu pour voir ce qui pourrait se passer en cas de dérapage. On s'est retrouvé confronté maintenant à une demande des familles, c'est-à-dire à une demande des parents sur le diagnostic d'anomalie que l'on va faire en cours de grossesse sur une image échographique. Et la législation permet, je vous le disais, en France, d'intervenir jusqu'à 9 mois de grossesse sous réserve d'un accord collégial. Ce n'est pas un médecin qui va prendre la décision, mais ce sont deux médecins dont un fait obligatoirement partie d'un centre de diagnostic prénatal, c'est-à-dire de quelqu'un qui fait référence et qui connaît bien la pathologie en question. Mais on s'est rendu compte du dérapage actuellement, en ce sens que les demandes par les familles d'arrêt de grossesse se font maintenant très souvent sur des lésions relativement minimes. C'est-à-dire que l'on fait une très bonne distinction entre des malformations organiques, par exemple cardiaques, digestives, pour lesquelles, quand on explique aux familles, après avoir fait le diagnostic, les possibilités thérapeutiques, eh bien, l'acceptation des familles se fait et l'adhésion des familles à poursuivre la grossesse peut se faire, après une bonne information, relativement souvent. Par contre, dans d'autres cas, sur des malformations qui ne mettent absolument pas en danger ni la vie du fœtus, ni son intelligence, et ce sont les malformations visuelles, apparentes, c'est-à-dire on a beaucoup de demandes pour des diagnostics, par exemple d'une agénésie, c'est-à-dire d'une absence d'une main, de l'absence de deux doigts à une main, de l'absence d'une jambe. Eh bien, sur des anomalies qui sont des anomalies qui ne mènent rien, aucunement en cause la survie de l'enfant, sans que l'on ait a priori aucun lien avec un risque non plus psychique au niveau de son état mental à la naissance et après ultérieurement, eh bien là, on a des demandes farouches de la part des familles pour obtenir une interruption de la grossesse. Ce qui entraîne d'ailleurs un nomadisme parfois des familles, puisque les centres de diagnostic prénatal, on refuse On refuse dans ces cas-là souvent et la plupart du temps l'interruption de grossesse qui n'est pas en fait justifiée du tout. Eh bien, ces familles vont de centre en centre pour essayer de trouver un centre qui va finir par l'accepter ou vont à l'étranger si le diagnostic est fait assez précocement, avant 24 ou 25 semaines, puisque certains pays autorisent l'arrêt de grossesse volontaire à ce stade. Alors ça, c'était simplement pour vous dire qu'on a donc un modèle un petit peu où la conscience de l'intéressé, c'est-à-dire la conscience du fœtus et sa volonté, bien sûr, n'est pas prise en compte et où il y a un risque de dérapage quand même au niveau des familles qui montre que ce n'est plus la souffrance de l'enfant qui va être le justificatif de l'interruption de vie, mais cela va être le risque de souffrance des parents et de la famille qui devient en fait la raison de la demande. C'est un modèle, bien sûr, qui n'est pas celui de la personne née, mais dont on peut imaginer que les mêmes dérapages pourraient s'appliquer sur des personnes lourdement en charge pour leur famille, et on se demande que, dans certains cas, si effectivement il ne risque pas d'y avoir un dérapage dans cette demande d'arrêt de vie.
Donc, on voit ici, avec l'intervention du docteur Cheras, donc l'importance du positionnement de la famille en fait, face à ce malade qui lui est particulièrement démuni, puisque c'est lui qui est quand même le plus touché dans l'histoire. Donc je pense que ce qu'il faudrait arriver à comprendre, et peut-être avec un éclairage analytique avec Xavier Santoni, sur le sens à donner à cette demande de la famille sur l'euthanasie, c'est comprendre pourquoi une famille peut être amenée et pas une autre, puisqu'à deux situations identiques, bon, même face à un tétraplégique, vous allez avoir une famille qui va demander une euthanasie, mais toutes ne demandent pas ce genre d'intervention. Donc c'est essayer peut-être de comprendre un petit peu le positionnement d'une famille qui formule cette demande d'euthanasie à l'égard d'un proche et parfois à l'égard d'un sujet jeune. Ça vient ?
Oui, alors effectivement, d'un point de vue psychanalytique, on peut se poser la question. Alors, d'une part, en ce qui concerne la personne malade qui, elle, va donc demander un acte d'euthanasie. Donc, comme disait tout à l'heure le docteur Pesquet, bon, cette personne qui peut se sentir effectivement un poids, une charge pour la famille, qui à ce moment-là va faire une demande, mais davantage par culpabilité. Et en face, donc, cette famille qui elle-même peut faire la demande. Et c'est vrai que d'un point de vue analytique, il y a ce qu'on appelle ce phénomène de la projection, qui en fait est un mécanisme très, très névrotique qui consiste à attribuer, on va dire, à l'autre son propre ressenti, ses propres sentiments. Et c'est la question qu'on peut se poser dans ce cas-là, c'est-à-dire cette famille qui affirme en quelque sorte être le porte-parole, on va dire, de cette personne malade, affirmant que c'est ce qu'elle que là est sa volonté. Est-ce qu'en fait ça ne correspond pas davantage, on va dire, à ceux qui vont faire la demande, qui eux ne peuvent pas supporter en fait l'handicap de cet autre en face et qui vont leur attribuer donc son incapacité à assumer la situation. Donc là, il est vrai que d'un point de vue analytique, on reste vraiment dans un doute à ce niveau-là. Est-ce que la demande de la famille ne correspond pas en fait à une demande qui lui est propre et non pas du tout à la demande véritablement de celui qui est malade? Donc ça, ça semble tout à fait discutable. Et d'autre part, Laurence Pesquet donc soulevait également ce problème de comment se fait-il que certaines familles semblent pouvoir supporter mieux que d'autres une personne gravement atteinte, une personne handicapée dans leur entourage. Alors là, il y a aussi toute une question d'éducation. Il y a aussi des profils, on va dire, de familles très très peut-être très judéo-chrétiens, comme on le disait tout à l'heure, qui vont se sentir, on va dire, obligés d'accepter cet handicap. Mais ça peut dépendre aussi de l'histoire de chacun, des degrés là aussi de culpabilité, voire même au niveau inconscient plus ou moins grand, qui vont faire que pour certains, il peut y avoir aussi un aspect de sacrifice qui se met en place, et avec cette obligation donc à assumer, on va dire, donc la personne très malade ou handicapée. Mais moi, ce sur quoi j'avais envie d'attirer l'attention d'un point de vue analytique, c'est qu'il est vrai que tel qu'on positionne les intervenants, il semble toujours qu'il y ait d'un côté, on va dire, donc la personne malade ou handicapée, donc à savoir la victime, et de l'autre côté, on va dire, la famille, qui, elle, bon, tient une place un petit peu plus extérieure, mais d'un point de vue analytique, on peut dire aussi que jusqu'à quel point est-ce que la personne très malade n'est pas, elle aussi, n'est pas uniquement une victime, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi une certaine forme de bourreau vis-à-vis de de sa famille, de tous ceux qui l'entourent, ne serait-ce qu'en lui imposant, on va dire, son infirmité ou son handicap. Et c'est là où on peut nuancer en fait un certain nombre de choses où la victime ne serait peut-être pas forcément celle à laquelle on pense, où il pourrait y avoir comme ça des interactions de rapports dominants-dominés, parce que quoi qu'il en soit, il y a un rapport dominant-dominé, mais qui au conscient semble aller dans le sens de celui qui est dominé, la personne malade, et où d'un point de vue analytique, on peut voir les choses dans l'autre sens, où l'handicapé, en fait, la personne malade, va davantage contrôler son entourage de par son handicap. Donc il y a aussi cette position qui en analyse est peut-être envisagée différemment.
Oui, donc on le voit au niveau de la prise en charge donc d'un malade de gravement atteint. Donc je dirais que la douleur physique, c'est quelque chose qui arrive à se gérer à l'heure actuelle avec les moyens qui nous sont donnés et avec les soins palliatifs. Et donc là où on a le plus de mal tous, c'est la souffrance morale. Donc avec cette interférence, comme le dit Xavier Santoni, malade et famille. Donc c'est arriver à comprendre ce qui se passe à ce moment-là dans cette histoire familiale de fait qui s'inscrit ensuite dans un domaine médicalisé, donc avec cette difficulté pour le médecin, je dirais, à se positionner et à y voir clair. Je pense qu'il serait peut-être intéressant, donc c'est de voir avec Chantal Calatayud la position analytique sur l'euthanasie, avoir peut-être quelques éléments de réflexion sur l'euthanasie d'un point de vue analytique. La médecine, elle est aussi confrontée aux problèmes médico-légal. Donc chez nous, c'est toujours plus compliqué à gérer parce qu'il y a de plus en plus de procès. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette loi qui cherche à légiférer certaines situations limites. Mais je pense qu'il faut voir après le raisonnement plutôt en termes de psyché. À ce moment-là, je peux peut-être nous dire quelques mots.